Patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, cause butch strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon au
féministe,
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois,
de 18h30
à 20h,
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoutez Dégenré,
une émission féministe pour déranger.
Ce soir, Samantha Renard et
Sylvie Soupline
vous présentent
une émission sur la pornographie.
Oh oui.
Oh oui.
Nous remercions
Nadine Laloutre
à la technique ce soir.
Bah bonsoir. Alors, on avait envie de faire cette émission sur le porno. Bah déjà, tout simplement parce que nous, ça nous arrive de regarder du porno et que... En tant que féministe, on avait bien envie de discuter de ça, de notre rapport au porno, de ce qu'on y trouve, des questionnements que ça peut nous évoquer, comment on combine le fait de regarder du porno avec notre engagement féministe, tout ça, tout ça. Et on avait aussi envie de revenir sur comment le sujet de la pornographie, ça a parfois été très polémique, et ça l'est encore dans certains milieux féministes, et voir comment le féminisme dit pro-sexe est né. Et alors, on voulait aussi vous parler un peu de comment c'est compliqué aussi, enfin que même si on vit aujourd'hui dans une société de l'image où on peut vraiment accéder facilement à du porno, c'est encore compliqué dans certains pays du monde.
Oui, alors par exemple, la pornographie est interdite dans la totalité des pays arabo-musulmans et surtout en Chine. La Chine, qui est donc un exemple de répression en matière de pornographie, où les peines encourues peuvent aller à la réclusion à perpétuité. Cela dit, aux États-Unis et au Canada, ça reste quand même super compliqué dans beaucoup d'États, même si du coup, beaucoup de productions de pornographie féministe arrivent tout droit des États-Unis ou en tout cas du continent américain. Ça reste quand même super compliqué à beaucoup d'endroits.
Oui, voilà, il y a des États aux États-Unis où, par exemple, c'est totalement illégal de montrer des scènes homosexuelles ou des scènes où les personnes ont des sexes pas épilés, justement. et par exemple, au Canada, il y a des lois contre l'obscénité qui font que, par exemple, il y a eu plein de problèmes, on en reparlera plus tard, mais notamment de librairies qui ont essayé de commander des ouvrages sur le sadomasochisme, tout ça, et ces ouvrages se sont retrouvés bloqués à la frontière. Et saisi parce que pour obscénité. Et puis, du coup, on voulait vous parler aussi de. Enfin, vous présenter des pornos qu'on trouve vraiment classe. Et du coup, des films et des réalisatrices qui s'inscrivent dans une démarche féministe et qui ont produit des choses qu'on a vraiment aimées. Parce que voilà, c'est pas toujours évident de trouver du porno qui nous plaît ou qui nous parle en tant que meuf, que gouine, que trans, que féministe. Et que du coup, c'est important de partager les sources qu'on a ou les films qu'on a. Alors, mais pour commencer, on va écouter plusieurs témoignages de féministes qui nous parlent de leur rapport à la pornographie.
Moi je regarde essentiellement du porno gay mainstream, mais ça c'est vraiment plus un truc de pragmatique.
L'orgasme rapide et efficace.
L'orgasme rapide et efficace, bah moi c'est le porno gay avec un schéma très classique de scène qui marche. Des fois ça m'arrive de regarder des pornos un peu, disons, plus intéressants en termes de, je sais pas, de sexualité. Du coup, c'est plus des pornos queer ou transpédéguines que je vais trouver intéressant à regarder. Mais en général, je vais peut-être les regarder avec d'autres gens pour en parler après, des trucs comme ça. Des trucs comme du Maria Betty, mais bon, dans ma vie de tous les jours, je regarde du porno gay, quoi.
Moi, je regarde surtout du porno, je vais dire, lesbien. Mais je pense souvent fait par des hétéros parce que je vais sur des sites où il y a surtout des pornos faits par des hétéros, je pense. Après, j'ai trouvé quelques trucs qui, je pense, sont faits par des meufs pour des meufs, que j'aime bien. Et j'ai des petites périodes porno hétéro dégueulasses, là, où je sais pas trop où ça va chercher dans les constructions, tout ça, rapport aux images dans la sexualité ou au rôle, mais bon, des fois ça marche. Des fois ça me dégoûte légèrement, alors ça dépend des périodes. Je regarde, disons pour ma culture personnelle, des pornos qui seraient plus faits, oui, des pornos plus intéressants politiquement, ou je sais pas, mais que effectivement ça marche pas trop en termes de branlette ou d'orgasme. C'est plus, pour le coup, ça m'inspire plus dans ma sexualité, ce genre de truc, ça me donne plus d'idées.
Quel genre de porno je mate? Surtout du post-porn, du porno lesbien, voilà.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi du post-porn?
Mais ce que j'ai cru comprendre en regardant ces films-là, c'est que ça correspond pas forcément au cinéma porno hétéronormé qu'on a l'habitude de voir ou que j'ai pu voir quand j'étais petite en fouillant dans les cassettes de mon père. L'après-porno, on va dire. Il y a plein de branches de porno qu'on ne connaît pas et qui sont hyper particuliers à chaque désir de chaque personne. Et je pense que le post-porn, ça correspond à ça. C'est ce qui n'est pas forcément normé ou ce qui est considéré comme anormal ou trop freaks.
Alors le genre de porno que je mate, c'est surtout du porno gay. J'aime bien les trucs qui mêlent donc gays qui sont BDSM ou des trucs comme les films de Caso Film, c'est une maison de production berlinoise qui essaye de faire du porno gay qui a juste l'air un peu alternatif. Je sais pas si c'est vraiment alternatif, tu vois, mais c'est juste que genre c'est des skins et des punks dedans et ils ont plein de piercings partout et ils ont plutôt des pratiques SM aussi. Sinon, je regarde beaucoup de porno queer et féministe, mais c'est, je pense que c'est surtout pour voir ce que c'est que genre, je pense juste pour me branler, j'utilise peu ce genre de support. J'ai essayé, puis je trouve que ça marche vachement moins bien que le porno gay, alors du coup, je suis revenue à mes premières amours. Voilà. I need a freak to hold me tight. I need a freak every day.
and every night. I need a freak to kiss me right. I need a freak to be my home computer site.
Et du coup, comment tu fais pour en voir du porno quand t'as envie d'en voir? C'est plutôt internet ou...
Alors, j'ai des potes qui m'ont filé des films et ça m'a duré pendant des années, puisque quand même le porno ça se revoit plein de fois si c'est juste à usage personnel. Il y a eu un moment donné de ma vie où j'avais suffisamment d'argent et suffisamment de temps pour sillonner l'Europe et aller de festival de films porno en festival de films porno. Et c'était chouette, du coup j'ai vu vraiment beaucoup de films très intéressants. Du coup, pas seulement du porno, j'ai vu plein de documentaires aussi, super chouettes. Je pense que j'ai vu des trucs qui sont hyper difficiles à voir ou à trouver, et ça, c'était bien.
Bon, moi, je vais sur Internet, quoi, des sites de streaming. Et après, pour les pornos, disons, plus intéressants, bah, ça tourne dans nos réseaux ou quoi. Enfin, je me les procure parce qu'un tel les a et m'en parle. Mais sinon, oui, c'est surtout Internet.
Moi c'est un peu pareil, pas exactement, un peu pareil, oui, internet, des sites comme YouPorn, RedTube, XTube. Et puis aussi, à un moment j'ai téléchargé des porno gays ou des amis qui, pareil comme moi, matent des porno gays et qui en ont. Et du coup j'en ai aussi sur mon disque dur, quoi. Et voilà, et après pour les pornos intéressants, bah c'est pareil, ça tourne dans nos milieux ou machin.
J'ai un réseau d'amis qui regardent aussi beaucoup de porno et on s'échange les films, dont un collectif, je sais pas si je peux encore parler au présent, mais qui s'appelle Urban Porn, et c'est des copines qui font des performances live qui ont tourné en France ou dans d'autres pays, et notamment elles sont allées au Festival Post-Porn de Paris, elles ont chopé toute la programmation pendant 3 jours, donc 80 gigas de porno, donc là j'ai pu me gaver, et elles ont aussi d'autres trucs de Maria Betty et... Donc j'ai pu passer plusieurs mois à regarder plein de choses différentes. Freak with long blonde hair, a super freak in underwear. I need a freak to treat me right. I need a freak every day and every night.
Est-ce qu'on regarde avec des gens? Ben non. Ou si, ben les pornos dits intéressants politiquement, je peux les regarder avec d'autres gens, mais si c'est dans un but de branlette, non, je regarde toute seule.
Bah pareil, quoi. Ça m'arrivait une fois de regarder du coup des pornos à but excitatoire avec une personne, qui était une personne à qui j'avais une relation, et c'était dans le but de s'exciter aussi, quoi.
Ouais, moi je fais ça aussi avec ma partenaire de temps en temps. Enfin, c'est plus un truc de fond, après on reste pas. On n'est pas arrivé sur l'écran, quoi. Mais comme on mettrait de la musique, bah parfois on met des pornos.
Alors, j'en regarde principalement toute seule, mais ça m'arrive d'être là, genre « Ah, t'as pas vu ce truc-là? Ah, faut trop que tu le vois !» Et du coup, là, je le vois avec des gens, parce que j'aime bien, comme j'en ai pas mal sur mon ordinateur, que je connais quand même plein de trucs, bah, du coup, j'aime bien partager ça avec les gens. Mais en général, ça me gaffe, parce que c'est des trucs que j'ai déjà vu 500 fois. Je continue de trouver ça, genre, bizarre de regarder du porno à côté de quelqu'un avec qui... il va pas se passer quelque chose de sexuel, en fait. Je trouve ça juste... Enfin, je trouve ça intéressant, mais c'est pas que ça me met mal à l'aise, mais genre, il y a juste un truc où je trouve ça peut-être un peu frustrant, en fait. Ouais, ça m'arrive de regarder du porno avec des amantes ou des amants, mais c'est pas un truc que je fais souvent, en fait. I need a freak every day and every night.
Est-ce que le porno a un impact sur notre sexualité? Bah oui, je pense, parfois ça peut donner des idées ou des scénarios, des trucs comme ça, des idées de jeu qu'on peut réfléchir à deux ou quoi. Après, je le dissocie quand même pas mal, je pense. Pour moi, c'est deux parties de ma sexualité un peu séparées, même si ça se rejoint à certains moments, quoi.
Oui, moi c'est pareil, je crois que... Oui, c'est deux trucs assez différents et du coup, bah en fait déjà, moi techniquement, les trucs principaux que je regarde c'est du porno gay du coup, surtout des bites et que bon, moi j'ai pas de bites et je sors pas avec les gens qui ont des bites, alors du coup déjà ça, comme tout est centré, c'est des porno gays sur la bite et ben voilà, du coup ça fait quand même un truc qui a rien à voir en fait, qui est complètement décalé quoi.
Bah déjà c'est quand même excitant de voir, voir du porno, ça peut être aussi très drôle, donc ça peut... Si, ça nourrit obligatoirement l'imaginaire et on peut voir des accessoires. Dans les films de Maria Betty, elle est quand même assez imaginative sur plein de choses. En plus, il y a... Je sais plus comment il s'appelle, mais... où elle fait du bandage sur un skateboard et les deux meufs, elles baissent comme ça. Et c'est assez inspirant, je trouve ça assez chouette, où on peut imaginer... plein d'objets du quotidien avec des roulettes ou quoi qui peuvent servir aussi à baiser quoi. Donc ouais, ça donne des idées et ça dépend si on s'intéresse au bandage ou au SM ou des choses comme ça, mais
ouais, je pense que ça a pas mal d'impact, ça a eu des impacts de m'inspirer des fantasmes clairement. Souvent dans un truc de ah ça je pourrais vraiment pas, et puis finalement ça me trotte tellement dans la tête que en fait c'est bim le truc qui va devenir genre tout d'un coup hyper excitant et trop important dans ma sexualité. Après je pense que ça a un impact dans le sens où ça me libère aussi de voir plein de pratiques, du coup genre je peux avoir genre envie d'en parler, puis ça peut être un bon support genre de regarder du porno avec quelqu'un, puis du coup d'être c'est un bon support pour briser la glace, pour parler de pratiques avec les gens, parce que je pense que c'est hyper important si on veut avoir une sexualité genre adulte responsable et qui viole pas les limites de l'autre, de parler genre sans tabou de ces pratiques. Mais je trouve ça quand même vraiment difficile pour plein de gens en fait. Oui. Il y a plein de gens, ça, enfin, même quand on leur offre l'espace pour dire ce qu'ils ont envie de faire ou genre exprimer leurs limites et tout, eh ben ils le saisissent pas parce qu'il y a quand même plein de blocages dans cette société pour parler de ce qui nous plaît et tout. Et je pense qu'il y a même plein de blocages pour découvrir ce qui nous plaît en fait, se poser vraiment la question de est-ce que j'ai une réponse sexuelle physique à ce moment-là, est-ce que ça me le fait ou pas. Enfin, je trouve que c'est quand même, on vit quand même dans une société hyper bloquée quoi. Et je parle même de la communauté féministe et tout, donc du coup, je sais plus c'était quoi la question, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon support pour commencer à parler de ces pratiques, et du coup, ça a forcément un impact dans ma sexualité, parce que ça fait du coup une sexualité qui est plus en accord avec les limites des partenaires et tout, et ça c'est vachement important.
Ça nous pose question en tant que féministe de regarder du porno qui est pas forcément intéressant politiquement, voire même craignos pour être politiquement. Moi non, parce que je me dis en fait c'est de l'ordre des trucs de fantasme, et pour moi je dissocie aussi vraiment les trucs de fantasme de la réalité. Après voilà, après je regarde des porno, par exemple moi je regarde des porno gays, je pense que si je regardais que des pornos hétéro dégueulasses, peut-être ça me poserait question, mais c'est pas le cas. Bon, après les pornos que je regarde sont vraiment pas très intéressants et ça véhicule des imaginaires, je pense, quand même très clichés sur ce que doivent être une sexualité gay. Et parce que je dis aussi vraiment ces pornos gays là que je regarde et ma sexualité à moi. Où...
Et moi, ben, les pornos auxquels j'avais accès quand j'étais ado, c'était vraiment des trucs dégueux, hétéro, enfin c'est les pauvres trucs, les cassettes vidéo qui tournaient au collège ou au lycée, quoi, les trucs pas forcément, voilà. Du coup, je pense que je suis restée sur ce modèle là pendant assez longtemps parce que c'était les seules choses auxquelles j'avais accès. En essayant de chercher des trucs un peu de meufs, mais bon, c'était dur d'y avoir accès, puis il y avait moins de trucs sur internet où c'était moins facile à l'époque. Et en devenant féministe, ça m'a vraiment posé question, ouais, je me demandais ce que j'y trouvais, ou qu'est-ce qui faisait que c'était ça qui m'excitait, et pourquoi ça me renvoyait à des trucs assez violents que j'avais pu vivre, mais que quand c'était du porno, ça pouvait m'exciter. Tout en tapant sur des trucs un peu douloureux ou j'en sais rien, des mauvais souvenirs. Et après, ben, ma sexualité a changé, du coup, les pornos que je regarde aussi. Et là, comme je disais tout à l'heure, des fois j'ai des périodes porno hétéro, mais je le vis mieux parce que c'est pas forcément relié à ce que je peux vivre dans ma sexualité, ou je me dis oui, c'est de l'ordre du fantasme ou de trucs qui sont ancrés en moi et que c'est pas tellement grave parce que ça m'évoque plus des choses que je peux vivre. Mais quand même, des fois, je me demande pourquoi ça continue de m'exciter par moments, et je me dis, mais c'est quand même bizarre. Quand c'est absolument plus des trucs que je veux vivre, et quand c'est des trucs où je me projette, moi, les vivants, je trouve ça hardcore, et pourquoi là, de les voir comme ça, ça peut m'exciter, quoi. Je sais pas.
Ce que j'ai comme porno, j'ai l'impression que c'est plutôt du porno du milieu féministe. Les pornos que j'ai pu voir quand j'étais petite, donc les classiques Rocco Siffredi ou les trucs comme ça, oui, évidemment, ça correspond pas du tout à des pornos féministes ou engagés politiquement, ou qui montrent d'autres choses que du gros plan de pénétration. Mais ce que je regarde actuellement, non, ça me correspond assez. Ce que je peux voir qui correspond à des pratiques que j'ai jamais fait ou que j'ai jamais entendu parler, ça m'éveille plutôt de la curiosité. C'est plutôt des choses que j'aurais pourquoi pas envie de vivre ou d'approfondir.
Est-ce que t'as l'impression que des fois il y a un décalage entre ce que tu kiffes dans le porno et ce que tu kiffes dans ta vraie vie et...
Étant donné que mon truc c'est vraiment le porno gay, il y a forcément un décalage avec ma sexualité vu que je suis gwyn. Après, le décalage, il est là et en même temps il est pas vraiment là, parce que je pense qu'on peut avoir vachement de pratiques ou de jeux qui sont de genre de faire les pédés, je sais pas quoi, entre gwyn, et moi j'aime bien ce genre de truc, du coup je crois que finalement le décalage il est pas énorme. Mais même quand il y a énormément de décalage, je sais pas, moi je trouve pas ça problématique en fait. Je pense que justement peut-être le porno c'est là pour filmer des choses et créer des images de trucs que les gens ils font pas vraiment dans leur vie, quoi. C'est un peu comme du cinéma, genre il y aurait des effets spéciaux et ce serait des trucs que tu ferais pas dans ta vie, mais produire ce genre d'image ça serait quand même intéressant vu que c'est des choses qui se passent dans nos têtes et sur lesquelles on peut avoir envie de regarder, sur lesquelles on peut avoir envie de fantasmer ou juste de se branler. Donc voilà, je trouve que c'est pas forcément la fonction du porno que d'être un documentaire de nos sexualités, quoi. Mais après, l'aspect documentaire, il est quand même vachement intéressant. Je pense que c'est pour des sexualités qui sont minoritaires ou minorisées ou juste qui sont vues comme des choses mâles, tabous, perverses, tout ça, ça a quand même beaucoup d'intérêt de les documenter. Donc du coup, je pense que les deux sont importants, en fait. Parce que finalement, le porno, c'est aussi une représentation de la sexualité auquel certaines personnes ont accès. Et du coup, représenter toutes les sexualités, c'est hyper important, vu qu'on vit dans une société où c'est vachement... Enfin, je dis pas que tu es d'accord avec ça, mais on vit quand même dans une société où il y a plein de choses qui passent par l'image, il y a plein d'informations qui passent par l'image. Et donc, du coup, pour des gens qui vont avoir une représentation de la sexualité qui est vachement basée sur le porno, c'est hyper important de créer du porno qui ressemble vraiment à tout ce qui se fait, en fait, parce que je pense que le sexe, c'est un domaine de créativité énorme, et que le porno aussi, du coup, encore plus, si on peut faire des effets spéciaux et qu'on peut faire tout ce qu'on veut dedans, quoi. Donc du coup, genre, je suis pas contre l'aspect documentaire, et puis je pense qu'il suffit, il y a des trucs que moi je me dirais, ça c'est vachement, moi c'est vraiment plus le truc documentaire, cette scène là, et puis il y a des gens qui se diraient, mais ça c'est vraiment un truc sur lequel j'aime me branler. Donc du coup, de faire le plus possible de diversité dans les représentations, ça aide à ce que le porno ce soit vraiment un truc qui puisse plaire à le plus possible de gens.
Et est-ce que ça te pose question tes goûts en matière de porno en tant que féministe?
En tant que militante, il y a des trucs qui m'ont posé vachement question dans mon rapport au porno. Par exemple, j'avais trouvé un truc de BDSM gay porno hyper bien. Genre, j'étais trop heureuse d'avoir trouvé ça. Et puis ensuite, je me suis aperçue que c'était une maison de production qui produisait des films en bareback. Donc le bareback, c'est une sorte de philosophie de promotion du sans-capote. Et en tant que militante, ça me mettait plutôt mal à l'aise. Je pense que, justement, dans ce truc de représentation de la sexualité, c'est hyper bien qu'on fasse passer un message pour le sexe safe dans le porno. Et du coup, j'étais un peu entre deux eaux quand j'ai découvert ce truc-là, quoi. Genre de me branler et puis en même temps de me sentir super coupable, blablabla. Et finalement, j'ai décidé que non, je trouverais d'autres choses mieux, enfin mieux politiquement, et tant pis pour ce truc-là. Sinon, en tant que féministe, je pense que quand j'étais vachement plus jeune, genre quand j'étais ado, genre je regardais du porno gay en cachette, et comme c'était du porno gay, ça me faisait pas trop de questions. Je me disais pas forcément féministe à cette époque-là, mais en tant que meuf, qui regarde du porno. Mais par contre, quand j'ai recommencé à regarder du porno et vraiment à l'assumer et tout, donc plus tard, genre à la vingtaine, eh ben, ça s'est fait par le porno féministe. Du coup, j'ai pas eu trop de questionnements féministes sur le porno, même si je pense que c'est grave une question féministe, tu vois. Et puis en plus, récemment, je me suis mise à regarder du porno hétéro, et c'était genre trop nouveau dans ma vie. Et là, ça m'a posé des questions. Mais j'essaye de trouver des trucs assez classe. Par exemple, il y a ce site internet qui s'appelle kink.com, et qui est du porno principalement BDSM. Genre, ils ont plein de sites et ils font principalement du porno BDSM, et ils se présentent comme un site éthique et féministe. C'est hyper bien ce truc, parce qu'en fait on voit des scènes BDSM assez donc qui vont vraiment loin, mais en même temps on voit les ficelles, en fait, c'est-à-dire on voit que c'est joué. Et on voit les actrices et les acteurs parler après et dire genre à quel point c'était bien. Et puis il y a plein d'articles sur internet sur comment c'est fait et tout ce qui se passe, tout ce qu'ils doivent régler au niveau consentement avant et tout. Et du coup ça rassure vachement d'un point de vue féministe, et en même temps ça va plutôt loin au niveau des pratiques, et j'ai trouvé ça vachement bien. And when I need this freak, I need her to be fair. I need a freak to treat me right. Est-ce qu'on a des pornos à conseiller? Bah, moi j'ai un porno intéressant à conseiller. C'est le tour de Pants, de Pants. C'est un porno queer américain, où c'est genre une bande de queer qui font une course à vélo qui s'appelle le tour de Pants. Et puis voilà, sur le parcours de vélo, t'as plusieurs scènes porno. C'est pas tout bien, mais moi... Enfin, le concept et le film, je trouve, il y a des personnages assez loufoques et machin, et des scènes que je trouve assez originales. Moi, j'ai bien aimé ce.
J'ai Post-Apocalyptic Cowgirls à conseiller. C'est le plus bandant des pornos lesbiens que j'ai jamais vu, et c'est de Maria Betty. C'est une sorte de road trip movie. En plus, c'est Lydia Lunch qui fait la musique, et c'est vraiment excellent. Avec deux meufs hyper bandantes, quoi.
Alors, un porno queer que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment parce qu'il y a une histoire, que la musique elle est bien, que c'est hyper bien réalisé, vraiment genre comme un vrai film. Enfin, moi en plus je l'ai vu au cinéma, et du coup c'est vraiment genre waouh et tout, c'est trop bien fait, c'est vraiment du porno genre ambitieux et queer en même temps. C'est The Champion de Shine With Houston de Pink and White Production là. Donc ça, je trouvais ça vachement bien. Je trouve que ce qu'elle fait Courtney Trouble, c'est vachement bien aussi. Donc elle a un site qui s'appelle Nofo, sur lequel il y a plein de scènes et tout, et puis elle a fait plusieurs films. Voilà. Sinon bah ouais, je conseille kink.com, c'est un site à découvrir pour moi. Sinon il y a Sex Skins de je sais pas qui sur Casofilm, et ça c'est trop bien, genre c'est que des skins genre ils se renversent de la bière dessus bon bref, il y a toute l'imaginaire skin et tout, et puis à un moment donné genre ils font un grand gang sur un punk et tout, bon bref c'est hyper cool. Puis ils ont des piercings partout, ils s'enchaînent les piercings les uns aux autres, et puis en même temps c'est un film où ça se voit qu'ils sont en train de kiffer ce qu'ils font, et c'est vraiment cool parce qu'ils ont quand même des pratiques qui vont assez loin parfois. Un autre film qui est vraiment hyper bien, mais vraiment ça, je pourrais le revoir 500 fois, et pas seulement pour branler, mais juste parce que c'est vraiment un très beau film qui aborde plein de sujets. En fait, c'est un docu-porn qui s'appelle Trans Entities, et du coup c'est deux personnes trans FTX qui parlent de leur couple, de leur transidentité, de leur vie en tant que trans, de leur sexualité, et il y a trois scènes où on les voit baiser, et à chaque fois c'est trois choses pas mal différentes, et c'est vachement bien. Et puis comme ils sont partenaires, enfin en tout cas ils l'étaient à l'époque du tournage du film, il y a vraiment une complicité de ouf, et en même temps il n'y a pas que la complicité, il y a aussi plein de thèmes hyper politiques abordés, donc du coup je trouve ça couvre vraiment, ça satisfait plein de ce que j'attends, de plein de choses de ce que j'attends d'un porno, quoi. Sinon un autre porno où il y a des trans qui est vachement bien, c'est le Tour de Pants, parce que moi j'ai adoré l'aspect vachement DIY de ce film, et puis il y a aussi un gangbang de femmes sur une autre femme qui est assez cool, parce que ça fait du bien de voir des femmes faire autre chose que se faire baiser par une grosse bite d'un trans ou d'une butch dans un porno queer. donc faire des trucs ensemble, et puis surtout genre elles sont un gang quoi, elles sont hyper agressives, elles ont des tatouages, et puis elles ont un gang qui s'appelle Spit and Glitter, ça veut dire du crachat et des paillettes, donc c'est vraiment cool. Il y a un truc vraiment intéressant qui s'appelle Le Cirque Noir, qui est un porno gay, mais dans lequel il y a Buck Angel, qui est donc un acteur de porno gay qui est trans FTM. Et il y a toute une scène où... Et je sais pas si c'était la première scène qu'il faisait dans un porno gay en tant que trans ou un truc dans le genre, mais en tout cas, il y a toute une scène où on le voit se branler, gna gna gna, il y a même tout un effet spécial pour genre le voir éjaculer et tout. Et puis ensuite, tout d'un coup, bam, on découvre qu'il a une chatte. Et juste, c'est assez excellent comment c'est foutu. Puis en plus, c'est du porno gay, mais qui est un peu alternatif, et du coup j'ai genre il y a des mecs déguisés en clown, ils ont des pratiques assez marrantes, et genre ils sont maquillés, c'est assez cool, le Cirque Noir. In these times of hate and pain, we need a remedy to take us from the rain. Jealousy, a little greed, of what I need. I need a freak to hold me tight. I need a freak every day and every night. I need a freak to kiss me right. I need a freak to be my home computer site. I need a freak with curly hair. And when I need this freak, I need her to be fair. I need a freak with flying curves. I need a super freak to calm my nerves. I need a freak with long blonde hair. A super freak in underwear. I need a freak to treat me right. I need a freak every day and every night. I need a freak exclusively, so that she'll only come to satisfy me. I need a freak, I really do. I want a freak, one who acts and looks like you. I need a freak, hear what I say. I need a freak to get me through the day. I need a freak to treat me right. I need a freak every day and every night.
Bonsoir, vous écoutez toujours Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Et alors, le morceau que vous venez d'écouter, c'était un morceau qui s'appelle I Need a Freak de Electrocute. Voilà. Alors, là, on va enchaîner sur. Alors, on avait bien envie de vous parler de comment ça a été super compliqué dans le milieu féministe, ce truc de pornographie, et comment ça a été sujet à des gros débats et des grosses polémiques. Et du coup, on va vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, bah, surtout dans les années 70, 80, et surtout aux États-Unis, mais ça a eu un impact aussi dans le milieu féministe français, avec l'émergence d'un féminisme anti-porno. Alors du coup, comme je disais, il a surtout émergé dans les pays anglo-saxons au début des années 70, et il était porté notamment par des personnes comme Andrea Dworkin et Catherine MacKinnon ou Diana Russell, ou encore par l'Australienne Sheila Jeffreys. Et du coup, pour ces féministes qu'on pourrait appeler essentialistes, la pornographie, c'est une forme de violence contre les femmes qui favoriserait les agressions contre elles. D'après elles, les actrices, elles seraient maltraitées, voire forcées à jouer dans ces films. Et elles estiment également que la pornographie, ça favoriserait du coup, le trafic d'êtres humains, la pédophilie et l'exploitation des femmes. Et d'après elle aussi, elle pense que ça réduirait la sensibilité des personnes qui regardent du porno, parce que ça entraîne une sorte de déshumanisation des rapports humains. Et du coup, notamment Andrea Dworkin et Catherine MacKinnon, à un moment, elles ont préconisé l'adoption de lois qui permettrait aux femmes qui ont été agressées sexuellement de poursuivre en justice les producteurs et les productrices de films porno. Enfin, je pense que ça ciblait plutôt les producteurs à l'époque. Et elle rédige même un projet de loi, l'Anti-Pornography Civil Rights Ordinance, qui est une loi qui a été adoptée en 1984 à Indianapolis et en 1988 à Bellingham, dans l'état de Washington. Mais cette loi, du coup, elle a été déclarée inconstitutionnelle. Je pense qu'elle violait la liberté d'expression, qui est un espèce de principe qui est dans la Constitution américaine. Et par contre, par exemple, la Cour suprême du Canada, elle s'est servie et elle incorpore des éléments des travaux de Dworkin et de MacKinnon, dans sa loi sur l'obscénité. Et du coup, ça, c'est une sorte de loi spécifique au gouvernement canadien qui a notamment eu pour conséquence des poursuites judiciaires qui ont été intentées par le gouvernement canadien contre déjà la librairie gay Glad Day Bookshop, qui était une librairie qui a été accusée d'avoir vendu un magazine sadomasochiste lesbien qui s'appelait Bad Attitude. Et une autre conséquence, c'est il est arrivé à peu près la même chose à la librairie Little Sisters Book and Art Emporium à Vancouver. Et du coup, si vous avez vu Better Than Chocolate dimanche dernier à Minitube, c'est une histoire qui s'inscrit un peu en trame de fond du film, cette histoire-là. Et du coup, oui, c'est ça, la librairie Little Sisters Book and Art Emporium, elle a dû se battre contre le gouvernement canadien pour pouvoir récupérer ces livres qui étaient bloqués à la frontière, qui étaient souvent des livres sur la sexualité lesbienne, sur le BDSM, sur les transidentités, sur tout ça. Et à la fin des années 70, aux USA et au Canada, mais aussi en Angleterre, y a pas mal de féministes qui se revendiquaient de cette mouvance, qui sont allées jusqu'à incendier des sex shops et vraiment passer à des actions plus un petit peu plus radicales. Et c'est aussi important de préciser que souvent ces féministes anti-porno, ou qu'on peut aussi appeler essentialistes, elles s'opposaient aussi à la prostitution, au travail du sexe, au sadomasochisme, ou encore à la présence de personnes trans dans les sphères féministes. Même ça va des fois jusqu'à des critiques assez poussées sur les modifications corporelles. Et du coup, ça, en fait, c'est souvent des positionnements qui s'opposent en fait au libre arbitre des femmes, en fait, que si on veut jouer dans un film porno, on peut. Si on veut se prostituer, c'est un travail pas forcément pire qu'un autre. Et si on a envie de se faire tatouer, percer, c'est un choix et nos corps, ils nous appartiennent, quoi. Et du coup, parallèlement à ça, il y avait plein d'autres féministes qu'on appellera peut-être les féministes plus pro-sexe. Enfin, c'est sex positive en anglais. Et ou les féministes constructivistes aussi qui partent du principe que en fait nos identités de femmes elles sont construites, c'est pas juste on n'est pas femme on n'est pas femme, on le devient, quoi. Et du coup ces féministes là elles défendent le travail du sexe et elles se revendiquaient de la mouvance SM ou encore elles considéraient que la pornographie elle devrait être en libre accès, quoi, que ça devrait pas être interdit. Et du coup, elles vont se dresser en opposition contre les féministes anti-porno, ou en tout cas se montrer critiques des actions qui sont menées contre la pornographie. Et alors tout ça, ça avait débouché sur un espèce d'énorme clash dans les années 80, qui va s'appeler The Feminist Sex Wars, les guerres du sexe féministe. C'est aussi appelé juste Sex Wars ou Lesbian Sex Wars, les guerres du sexe lesbienne, tout ça. Et du coup, ça va splitter entre les féministes constructivistes, pro-sexe, tout ça, elle est féministe essentialiste et opposée à la pornographie, au travail du sexe et tout ça. Et du coup, nous, on se revendique plutôt d'un féminisme pro-sexe.
Et... Tout à fait.
Mais du coup, même en se revendiquant de ce féminisme pro-sexe, et ben parfois c'est quand même questionnant ou pas évident de regarder du porno en étant féministe. Alors pourquoi tout ça? Ben déjà, parce qu'en tant que féministe, on tient beaucoup aux notions de consentement, de respect au niveau de la sexualité, et que parfois ça peut nous arriver d'être excité par des trucs qu'on voit. Qui vont montrer des scènes où c'est flou, où il y a des espèces de mises en scène de trucs peu consentis ou peu consensuels, ou en tout cas des trucs qu'on trouve vraiment pas hyper cool politiquement ou hyper classe. Et du coup, ça fait un espèce de super décalage où on se dit oulala, mais pourquoi est-ce que ça m'excite alors que j'aurais pas du tout envie que ça m'arrive. Et voilà, c'est hyper dur de gérer. De gérer ce qu'on veut vivre dans la vie et ce qu'on veut défendre comme type de relation sexuelle et ce qui peut nous exciter, parce que des fois c'est en décalage complet. Puis même parfois, même quand c'est pas quand il y a pas de décalage, quand il y a pas de choses qu'on trouve choquantes au niveau du consentement, au niveau de la violence ou au niveau des jeux avec des espèces de mise en scène de contraintes ou des choses comme ça, et ben parfois c'est hyper questionnant aussi parce que ça correspond pas du tout à ce qu'on vit dans nos sexualités. Par exemple, sur un plan personnel, en étant Gwyn, ça peut m'arriver de regarder du porno hétéro et de trouver ça excitant ou même de me masturber dessus, alors que moi je veux pas coucher avec des gars, ça m'intéresse pas particulièrement, ça m'excite pas particulièrement et que c'est très mystérieux.
Et moi, j'ai trouvé ça super génial là d'entendre dans le montage ces témoignages de filles de Gwyn qui regardent du porno PD. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a complètement omnibulée pendant des années à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis PD? Je regarde du porno PD, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, du coup, il y a un film qui est sorti l'année dernière, un film de Lisa Cholodenko qui s'appelle « Tout va bien, The Kids Are Alright ». Qui a des petits passages intéressants. Alors dans ce film, il est question de deux femmes qui vivent ensemble depuis 20 ans et qui ont deux enfants, deux ados, qui s'appellent Johnny et Laser. Dans le premier extrait, qu'on va écouter tout de suite, les deux femmes sont au lit et décident de regarder un film ensemble.
Regarder un film, t'aimerais ça?
Tu parles d'un film?
Ouais, il y a longtemps qu'on l'a pas fait.
D'accord.
Ok. J'aime pas les gars dans celui-là. Ils sont trop épilés, ça m'énerve.
Pense pas à ça.
Ok.
Alors oui, en fait, les deux mamans regardent un film porno PD un soir dans leur lit. Alors ça, c'était un peu drôle. Et puis, ça devient intéressant un petit peu plus tard. Alors, il y a une des deux femmes qui rentre chez elle et qui surprend son fils Laser devant cette même vidéo qu'il a volée dans la chambre des mamans. Et qu'il regarde l'air complètement halluciné avec son pote clé.
Laser, t'as encore laissé traîner ton vélo dans l'allée.
Laser, ta mère et moi on t'accepte et on t'aime inconditionnellement. Tu le sais ça, non?
Oui.
Oui, et tu sais qu'il n'y a absolument rien dont tu ne puisses nous parler.
Oui, je sais.
Ok.
Laser, y a pas quelque chose dont t'aimerais discuter?
Comme quoi?
N'importe quoi, tout ce qui te vient à l'esprit.
Eh ben, y a peut-être quelque chose, mais ce serait plutôt une question.
Oui, d'accord.
On ne va pas te juger.
Pourquoi est-ce que vous regardez de la porno avec des hommes?
Eh bien, d'abord, il faut que je te dise que c'est très rare qu'on regarde ce film.
Très rare.
Et ensuite, je n'ai pas du tout apprécié vous voir comme ça fouiner dans notre chambre, ok? Quoi, c'était l'idée de clé, ça?
Non, maman.
Une minute, je vais le redire encore, je ne l'aime pas.
Oui,
chérie,
sais,
c'est bon.
Tu m'entends? Il m'a l'air instable.
Hé, sa question, c'était pas ça, chérie.
Tu veux y répondre, toi, dans ce cas?
Oui, ok. Eh bien, Trésor, tu sais, chez les humains, la sexualité, c'est complexe. Et parfois, le désir peut être, comment dire, contre-intuitif, tu vois. Par exemple, parce que la réceptivité sexuelle chez la femme est intériorisée, ça peut parfois être excitant pour nous de voir de la réceptivité extériorisée, comme avec un pénis.
Vous aimeriez pas mieux voir des filles en action?
Bah, c'est ce qu'on pourrait croire. Mais en général, ils engagent deux femmes hétéros dans ces films qui font comme si, et ça manque d'authenticité.
C'est bon, ok, ça suffit.
Oui, alors, ça soulève aussi, enfin, ce petit extrait un peu drôle là, soulève aussi la question de la représentation des Gwyn dans le porno, celui qui est le plus facilement accessible gratuitement sur Internet, par exemple, le porno hétéro, basique, merdique.
Et oui, c'est ça, c'est que souvent dans le porno basique hétéro-merdique, les lesbiennes, bah, c'est souvent des actrices hétérosexuelles qui ont une sexualité assez... qui est en fait la sexualité que les hétéros, que les hommes hétéros imaginent être la sexualité des lesbiennes, mais dans un but qui les excite eux, c'est-à-dire un truc qui nous parle pas du tout. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai l'impression que plein de Gwyn, bah, on regarde du porno PD parce que c'est une... y a des interactions qui nous parlent peut-être plus, parce que souvent les acteurs... des acteurs PD dans les films gays PD, ils sont, c'est vraiment leur sexualité et c'est plus authentique que la sexualité.
Oui, du coup, ils sont pas dans la transposition d'un désir hétéronormé de base, quoi.
C'est ça. Et puis aussi, il y a plein de codes, qui existent dans la communauté lesbienne qui sont absolument pas montrés dans les films lesbiens faits par des producteurs hétérosexuels, des hommes hétérosexuels, parce que par exemple, bah voilà, il y a pas de grosse bouche, parce que ça fait pas du tout fantasmer les hommes hétérosexuels. Il y a pas de trans, il y a pas de AFM plein de tatouages qui font des gangbangs. Tout ça.
Alors là, tout de suite, on va écouter un morceau de musique assez chouette d'une chanteuse française qui s'appelle Diterzy, et le morceau s'appelle À quatre pattes.
À quatre pattes, je te loque tes Nike et tes frocs. À quatre pattes, tes rêves ont pas stock. À quatre pattes, je te brique tes biceps à tatouage. C'est moi Jenny la bimbo. Jenny la bimbo. À quatre pattes.
Alors voilà, on vient de voir comment c'est compliqué parfois en étant féministe de regarder du porno. Et mais on voulait rebondir sur ce truc qu'en fait, on va pas culpabiliser pendant 150 ans de regarder du porno. Et du coup, on avait plutôt envie de se concentrer sur ce que ça nous apporte en fait, ce truc de regarder du porno. Parce que j'ai l'impression que pendant super longtemps, dans le milieu féministe, en tout cas des personnes avec qui j'ai discuté qui regardent du porno, on a eu hyper du mal à en parler ou en tout cas à se l'avouer ou à l'assumer mutuellement. Au grand jour, tout ça, genre à sortir du placard du porno, là. et notamment par rapport à ces trucs de culpabilité. Mais du coup, on va vous parler de ce qu'on trouve chouette dans le porno. Alors, déjà, souvent, donc, regarder du porno, c'est souvent un support à la masturbation. Il y a des personnes chez qui ça marche pas juste de se masturber sans regarder du porno, tout ça. Et du coup, ça permet d'avoir une sexualité autonome. Si c'est un support à la masturbation, pourquoi pas, en fait. Parce que, vivre la masturbation, ça permet de
vivre plein de choses,
en autonomie, sans avoir besoin d'une tierce personne, pas besoin de
solliciter qui que ce soit,
c'est ça.
Enfin, à part soi-même, un peu.
Et aussi, l'autre truc qui est important, c'est que, comme c'est dit dans les interviews qu'on a écoutées plus tôt, souvent, ce truc de décalage entre ce qu'on veut vivre et ce qui nous excite, ce qui nous fait fantasmer, tout ça, c'est de l'ordre du fantasme. Et du coup, ça, c'est deux choses hyper différentes, quoi. Il n'y a pas besoin de... On peut fantasmer sur des choses qu'on voudrait jamais vivre dans la réalité, et on n'est pas du tout obligé de les vivre, et on peut tout à fait assumer d'avoir ces fantasmes, parce que voilà, nos sexualités, elles sont aussi construites dans ce monde complètement pourri, hétéronormé, dans lequel on vit. Et on a intégré hyper jeune des codes, ou en tout cas des imaginaires qui sont certes pourris, mais parce que voilà, on vit dans une société hétéropatriarcale. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est de voir ce qu'on en fait et comment aussi on peut jouer avec ça, on peut ne pas culpabiliser d'avoir du plaisir par rapport à ça, mais plutôt en jouer.
Et même au contraire, il faut que ça puisse devenir notre force aussi, d'être capable d'avoir des imaginaires qui ne correspondent pas à nos idéaux politiques, qui ne correspondent pas à nos valeurs, aux choses auxquelles on croit. Et donc d'avoir des imaginaires, des fantasmes qui peuvent être hyper différents de ce qu'on met en application dans notre vie sexuelle, dans ce qu'on partage avec les autres. Et justement, je pense que ça doit être une force un peu de... Qu'on doit pouvoir se sentir forte, en tout cas, de pouvoir avoir des imaginaires parfois un peu chelous et pourtant avoir une vie sexuelle partagée, hyper respectueuse et...
Et hyper chouette.
Et hyper chouette et drôle.
c'est ça aussi, c'est que aussi regarder du porno, ça peut être une source d'enrichissement de nos imaginaires. Par exemple, voilà, on peut se dire... tiens, c'est fou, j'ai vu ça dans le film, ça m'était jamais venu à l'esprit d'expérimenter ça, si on expérimentait ça. Et c'est ça, on peut en fait jouer avec tout ce qu'on voit, tant que c'est entre adultes consentants, avec du respect et de la prise en compte des limites des autres, vraiment tout est possible. Et aussi, dans une société où il y a très peu de paroles autour de la sexualité, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours d'éducation sexuelle au collège ou au lycée, en tout cas pour ma part, c'était assez sommaire, quoi. On a eu... nous, personnellement, on nous a passé un film pro-émotionnel sur comment mettre des tampax. C'était tout à fait... Ça ne nous a pas beaucoup aidé à parler de sexualité. Le porno, ça fait au moins que ça donne un support justement à la discussion, et même si c'est pas le meilleur des supports dans la mesure où la grande majorité du porno qui circule, c'est du porno hétéro un peu pourri, ça fait que ça libère la parole autour de ça, ça donne de quoi parler, et même en couple ou avec des amis, en fait, des fois ça permet de
se rendre compte qu'on n'est pas la seule gouine à regarder du porno pédé. Oui, enfin, en tout cas, ça permet vraiment de beaucoup d'échanger autour des pratiques, alors que ça soit dans le cadre d'une relation amoureuse ou avec ses amis. Ça nous permet de décloisonner un peu.
Oui, c'est ça. Puis d'exprimer nos désirs, puis aussi d'expérimenter. Par exemple, on peut se rendre compte que bah telle chose ça nous excite alors que voilà on n'y avait jamais pensé et du coup ça donne des idées, ça donne envie d'essayer des choses. C'est assez intéressant quoi. Puis après il y a aussi tout ce truc où chacun on trouve aussi des stratégies pour déculpabiliser par rapport au fait de regarder des fois du porno qui est un peu qui est pas hyper politiquement correct ou même si je pense qu'en tant que féministe on est quand même une grande majorité à quand même chercher ardument des pornos qui s'inscrivent dans une démarche féministe, mais il y a plein de petites stratégies qu'on met en place à un niveau personnel. Ça peut être de regarder des films où on voit vraiment les ficelles, où on voit vraiment que c'est joué, ou de regarder des films où on voit que les gens ils s'éclatent, ils rigolent, ça a l'air fun. Ou de regarder des fois des choses qui justement n'ont rien à voir avec nos vraies vies sexuelles, par exemple de regarder du porno PD pour des meufs etc. ou pour des gouines, et ben ça peut aussi ça peut être plus facile de regarder du BDSM entre gays que du BDSM dans un cadre hétéro par exemple où ça nous renvoie des trucs aussi vraiment différents. Puis aussi au lieu de décrier le porno comme une forme d'exploitation des femmes, nous on aurait plutôt envie qu'il y en ait plus et qu'il y en ait une plus grande variété et qu'il y en ait plus qui soit fait par des femmes et pour des femmes ou par des queens, des trans, pour aussi des queens et des trans ou pour des PD, mais ça se fait déjà un petit peu plus. Et alors ça fait déjà quelques années qu'il y a une production qui s'inscrit dans une démarche féministe. Alors on va voir ça dans quelques minutes après avoir écouté un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Faggot Fairies. Alors c'est deux gouines qui font de l'électro et c'est un morceau qui s'appelle Feed the Horse et qui parle de sexe en fait. Ça s'appelle Donner à manger au cheval mais ça parle de sexe. Voilà.
Yeah.
Alors, bonsoir, vous êtes toujours sur Dérangé. Non. Vous êtes toujours sur Dégenré, une émission pour déranger sur Radio Kaléidoscope. Alors, on voulait vous parler un petit peu maintenant de réalisatrices qu'on trouve chouettes, qu'on fait des films chouettes, et un peu dans une espèce de dimension de partage, comme ça, autour des films qu'on trouve intéressants. Et alors, on pourrait commencer par parler de Annie Sprinkle. Annie Sprinkle, c'est une ancienne travailleuse du sexe américaine qui s'est créée un nom et un univers depuis les années 70. En fait, elle a bâti quelque chose d'assez unique. Elle a produit un discours sur sa vie de prostituée. Elle en a fait une arme féministe et un art sexuel carrément. Alors, dans les années 80, elle a découvert à l'université l'histoire du mouvement féministe. Et puis, on parlait tout à l'heure un peu d'un clash entre les féministes pro et anti-sexe. Et du coup, il y a des grands questionnements pour Annie Sprinkle à ce moment-là, qui se dit, mais jusque-là, je me disais que si toutes ces féministes-là étaient opposées au porno, alors j'étais pas féministe, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait mille façons de défendre les femmes. Alors, en 86, elle lance le Pornstar Support Group avec d'autres actrices porno et elles ont un message hyper simple, c'est « Nous travaillons dans le porno, personne ne nous a forcés, nous aimons notre métier et la révolution de la femme doit être sexuelle et fun ». Et alors pour autant, elle renie pas le féminisme plus traditionnel et du coup elle dit par exemple que avec son groupe le Pornstar Support Group, elle mettait en avant que elle refusait de travailler avec des hommes stupides et que du coup par ces revendications là, elle bénéficiait aussi d'un féminisme plus classique. Alors, il faut savoir que Annie Sprinkle, par exemple, c'est elle qui a produit le premier film porno transsexuel, qui a organisé les premiers ateliers drag king où les femmes se déguisaient en hommes, et aussi un atelier pour putes et déesses qui s'appelait le Sluts and Goddesses Workshop. Qui deviendra une vidéo. Et puis, il y a une dizaine d'années, elle a même fait une thèse en sexologie. Enfin, c'est une femme chouette à découvrir et ses films aussi.
Oui, puis c'est un peu une figure de l'histoire du mouvement féministe pro-sexe, quoi. Du coup, c'est vraiment un peu une incontournable. Et alors, plus récemment, il y a aussi, vous l'avez peut-être vu, mais il y a un film qui est sorti, un film suédois, qui s'appelle Dirty Diaries, qui était un peu, pareil, un des premiers films, en tout cas, qui a été diffusé à une très grande échelle, qu'on a pu voir dans genre quasiment tous les cinémas de France, qui a été réalisé par Mia Engberg. Ben, en fait, c'est plusieurs petits films qui ont été réalisés par plusieurs femmes, qui justement, Mia Engberg, qui a un peu réalisé l'ensemble du film, enfin produit l'ensemble du film, elle leur a demandé à ces femmes de produire du porno qui leur plairait en tant que femme, quoi. Et du coup, il y a plein de petites scènes porno, mais qui sont assez intéressantes parce qu'elles sortent aussi de ce qu'on voit d'habitude. Il y a des scènes où il y a vachement plus de jeux autour, enfin qui tournent moins autour de la génitalité. Il y a une scène avec une exhibitionniste qui se balade dans la ville et qui...
Il y a des scènes d'animation.
Il y a des petits films d'animation, c'est ça. Il y a toute une scène que moi je trouve vraiment hyper chouette à la fin où en fait on voit juste des femmes dont seulement il y a que le visage qui est filmé et elles se masturbent et elles ont des orgasmes. Et en fait moi cette scène je la trouve vraiment hyper puissante et voire même plus excitante que certaines autres scènes. Après moi j'ai pas tout apprécié dans ce film mais je trouve qu'il montre quand même, puis la démarche est chouette, puis il montre quand même une grande diversité de pratiques. Il y a aussi bien du porno hétérosexuel que des femmes qui font du sexe toutes seules parce que voilà elles se masturbent mais, ou des queens qui font des matchs des catch ou c'est assez... C'est assez chouette, du coup, c'est à voir. Et alors, toi, tu voulais nous parler de Courtney Trouble?
Ouais, alors Courtney Trouble, elle a créé, alors il y a super longtemps, en 2002, donc ça fait une dizaine d'années, le site nofo.com. C'est elle aussi qui a tourné les films un peu connus qui s'appellent Roulette. Alors il y a Roulette Berlin, Roulette Toronto, et puis il y en a d'autres. Ainsi qu'un film connu qui s'appelle Speakeasy, enfin connu, évidemment, dans le milieu de sexualité transpédéguine alternative. Mais, Bah voilà, pour Courtney Trouble, il y a assez peu d'infos qui circulent sur qui elle est, comment elle est arrivée là. En tout cas, elle fait des choses chouettes.
Bah, il y a un peu des infos sur son site. Alors, on peut vous donner l'adresse. C'est www.courtneytrouble, tout attaché, courtneytrouble.com. Et aussi sur le site Nofo, du coup, qui est son site porno. Où, auquel, ça, c'est le truc qui est un peu embêtant souvent avec le porno transpédéguine alternatif, queer alternatif, c'est que souvent, c'est invisible sur des sites, mais où il faut s'inscrire. Et du coup, Nofo, c'est un peu le problème. Mais il y a quand même il y a la possibilité de voir une sorte de petite prévisualisation de ce qu'elle fait. Et c'est assez chouette. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie. J'allais pas m'inscrire, mais ça m'a donné envie de voir plus de ce qu'elle faisait, quoi. Alors, le site, c'est www.nofaux.com. Alors, moi, j'avais bien envie de parler aussi de Maria Beatty. Alors, Maria Beatty, c'est un peu. C'est aussi une pionnière avec Annie Sprinkle, parce qu'elle est un peu la première femme qui a fait des pornos lesbiens, qui se penchait pas mal sur l'aspect BDSM et fétichiste de la chose. Et alors elle travaille depuis super longtemps, je sais plus ses premiers
depuis
films.
Depuis 94, son premier film BDSM lesbienne.
Voilà, c'est ça. Ça fait quand même un petit moment. Et elle continue toujours, et elle a une boîte de production qui s'appelle Bleu Production. On peut trouver aussi ses films sur ce site. Et par exemple, moi, il y a un film que j'avais vraiment bien aimé qui s'appelle Post-Apocalyptic Cowgirls of America, dont parle aussi une personne dans les interviews qu'on a écoutées plus tôt. Et qui est vraiment assez chouette. C'est une sorte de road movie avec deux femmes qui font plein de petits trucs, qui jouent avec des serpents. Enfin, ouais, elles mettent en scène plein de petits jeux sexuels qui sont assez excitants. Puis les paysages sont hyper beaux. Il y a plein de références un peu aux vieux films des années 60. Elles ont des super voitures. C'est le milieu du désert, tout ça. Et il y a l'autre film qui est aussi mentionné dans les interviews que je trouve qui est assez intéressant, c'est le film avec histoire de l'utilisation du skateboard dans le cadre d'une scène de bondage. Et c'est un film qui s'appelle Skateboard King Freak, et qui est assez, comme je trouvais marrant aussi, justement, dans ce truc d'utiliser des ustensiles, des outils ou des objets qu'on n'aurait jamais pensé intégrer dans notre sexualité, comme un skateboard.
Après, Maria Beatty, elle a aussi son style. Elle fait aussi des films en noir et blanc, avec une esthétique hyper recherchée, enfin, qui hyper propre à Maria Beatty, en fait.
Ouais.
Et enfin, nous, on peut que vous conseiller d'aller faire un petit tour parmi sa filmographie, et puis de regarder un peu. Elle a fait des choses tellement différentes et tellement... Enfin, son parcours est tellement riche.
Ouais. Ouais, puis elle s'inspire, elle a vraiment des références au cinéma, par exemple. Ses films sont vraiment. Alors que souvent, la production pornographique, c'est pas hyper beau esthétiquement ou quoi. Elle fait vraiment attention à ce truc d'esthétique où elle s'inspire vraiment beaucoup, par exemple, du cinéma expressionniste et du film noir américain. Par exemple, un de ses premiers films s'appelle The Black Glove, je crois. Il est vraiment très, très, très esthétisé. Il y a clairement des références et au cinéma expressionniste et au cinéma.
Noir.
Il fait peur un peu. une autre réalisatrice que moi je trouve vraiment, que j'aime vraiment bien, c'est ce qu'elle produit, c'est Shine Louise Houston, je sais pas exactement comment ça se prononce, qui elle a une boîte de production qui s'appelle Pink and White Production. Alors vous pouvez aller voir le site, c'est www.pinkwhite.biz. Alors, Pink White, c'est PinkWhite.biz, B-I-Z. Et elle fait notamment une série qui s'appelle The Crash Pad Series, qui est une sorte de petite série de... c'est des films qui durent à peu près une heure, mais c'est des petites séries de... Il y a des petits courts-métrages sur... En gros, c'est toujours un peu le scénario de base, c'est que... Ces personnes peuvent... Il y a des couples qui vont dans une espèce de maison qui est un peu le crash pad, quoi, le nid douillet, le nid d'amour où on peut aller baiser dans San Francisco. Et elles se passent la clé de l'une à l'autre et c'est un peu un truc secret. Et du coup, quand t'as la clé, tu peux aller baiser dans le crash pad. Et du coup, ça donne lieu à tout plein de scènes hyper différentes entre plein de personnes hyper différentes. Et il y a vraiment un peu de tout dans ces séries. Et c'est assez chouette parce que ça montre plein de pratiques, ça montre plein de corps, ça montre plein de... Parce qu'il y a pas mal des trans aussi qui jouent dans ces films. Il y a des femmes, il y a des butch avec des butch.
Il y a des grosses, il y a des grosses, maigres.
Il y a des maigres. Il y a une grande diversité dans ce qui est représenté. Et c'est aussi elle qui a fait un film qui s'appelle The Champion, qui est aussi vraiment assez chouette, sur une histoire de boxe, tout ça. Et ouais, elle a fait d'autres films, elle a fait un film qui s'appelle Super Freak aussi, enfin, il y en a plusieurs qui ont été produits par elle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai lu une interview d'elle dans un magazine qui s'appelle Bend Over. C'est une espèce de magazine anglo-saxon, je sais pas trop si c'est anglais ou américain, mais a priori plutôt américain. Et ça s'appelle Bend Over, donc penche-toi. Et le sous-titre, c'est Feminism, Sexuality and Queer Art. Du coup, féminisme, sexualité et art queer, ou art transpédéguine. Et dedans, il y a une interview de Shane Louise Houston où justement elle parle de comment justement elle a vraiment réfléchi à aussi ce truc de fantasme et de décalage entre les fantasmes et ce qu'on montre à l'écran et tout ça. Et elle a tout à fait conscience qu'en tant que réalisatrice de films porno, ben, elle a un rôle et aussi une responsabilité dans ce qu'elle montre. Et elle explique à fond que, par exemple, elle a des espèces de fantasmes mais qui sont pas du tout politiquement corrects, ou en tout cas, qui craignent, quoi. Et que ça, par exemple, elle se sent pas de le montrer à l'écran parce que voilà, par exemple, on peut parler de certaines choses et ça aura un moins grand impact que de montrer certaines choses dans une société... dans une société où plein de choses passent par l'image, et aussi l'image, ben, c'est aussi un truc qui légitime parfois, qui dit par exemple, bah, c'est ok de faire ça, quoi. Et du coup, elle se dit que dans ce qu'elle montre, et ben, justement, elle a à fond conscience de ce qui est ok de montrer et ce qui est ok tant que ça se passe dans nos têtes, quoi.
Ouais, du coup, elle soutient vraiment le parti de la responsabilité des réalisateurs et des réalisatrices par rapport à un plus grand public.
Ouais,
et,
c'est ça.
Et je trouve ça vraiment chouette. Mm. Vraiment chouette. Et de la même façon que Shane Louise Houston, c'est aussi une des réalisatrices qui s'attache le plus à pas faire de par exemple, il y a pas que des blanches, on disait, il y a pas que des filles super bien gaulées, il y a aussi des grosses, des maigres, il y a aussi des filles qui viennent d'origines hyper différentes, et ça, c'est quelque chose d'hyper fort pour elle. De s'attacher à représenter plein de gens de plein de provenances différentes,
ouais.
Toujours dans ses films.
Ouais, et puis aussi, bah, dans cette même interview, elle parle aussi justement de ce truc que justement elle essaye de casser aussi, ce truc d'exotisation de personnes non blanches. Mais aussi de casser les espèces de stéréotypes qu'il y a, où elle est afro-américaine, ou en partie afro-américaine. Mmh. Et elle parle par exemple de ce truc que dans la pornographie américaine la plus répandue, bah, souvent les femmes noires, c'est celles qui savent tout faire, qui n'ont aucun complexe par rapport au sexe, qui sont soit des prostituées, soit des grosses salopes, soit, et qu'elle essaye de casser à fond ce stéréotype, de le démonter et de montrer autre chose.
D'ailleurs, c'est assez stupéfiant quand on va sur des sites de streaming porno gratuits comme ça, hétéro souvent, mais accessibles en ligne. Il y a des catégories comme ça où on peut choisir de naviguer par catégorie, et par exemple latino, black, asiat, enfin il y a une catégorie qui rassemble toutes les origines qui peuvent avoir quelque chose d'exotisant ou je sais pas quoi,
ouais.
et c'est assez immonde, et c'est quelque chose qu'elle démonte elle formellement.
Ouais, et ça c'est aussi pour ça que je l'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'en tout cas elle parle vraiment de sa démarche, et elle a vraiment une réflexion, ouais, que ça soit au niveau du racisme, au niveau du féminisme, au niveau du consentement, que je trouve vraiment chouette, et qui est pas hyper hyper courante, ou en tout cas enfin où il y a pas tellement de personnes qui portent publiquement des paroles comme ça.
Et du coup on voulait parler aussi un peu de des copains, des copines en l'occurrence du crew Urban Porn de Lille, dont parlait aussi quelqu'un dans le montage. qui font des actions, des performances et des petits films. Par exemple, ils ont fait un film chouette qui s'appelle Strap-on Dildos. Et là, du coup, on est plutôt dans le porno DIY, mais vraiment chouette. Et j'ai l'impression que ces dernières années, il y a des festivals de porno DIY. C'est quelque chose qui se...
Ouais, c'est quelque chose qui se met en place.
Qui se développe à fond. Mais alors, de toute façon, toutes ces références, elles seront bientôt disponibles directement sur le site de Radio Rageuse. Alors, vous tapez Radio Rageuse dans n'importe quel
moteur de recherche.
Moteur de recherche et tout sera disponible.
Oui, parce qu'on a oublié l'adresse du site Radio Rageuse. On n'est pas très sérieuse des fois. Mais sinon, moi je voulais aussi parler d'un site qui a été créé récemment, qui s'appelle Queer Porn TV, et dont fait partie aussi un autre site qui lui est gratuit, qui s'appelle www.queerporntube.com. Alors ça s'écrit www.queerporntube.com. Et ces deux sites où il y a, notamment sur Queer Porn Tube, qui est gratuit, il y a plein de films qui ont été postés par des transpédéguines. Assez souvent, c'est des films amateurs, mais du coup, assez intéressant. Enfin, c'est des gens, ils ont trippé, ils ont fait leur porno entre transpédéguines et ils le montrent. Et c'est vraiment assez chouette. Et moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire un tour par là quand on cherche du porno transpédéguine ou féministe. C'est plus axé transpédéguine, du coup. Mais qui est vraiment... moi, je le trouve vraiment, vraiment hyper bien.
Oui, c'est très chouette.
Ouais. Puis il y avait le site dont parlait une des personnes qui a été interviewée, où il y a des scènes porno BDSM, mais où on voit les ficelles, où on voit que les acteurs...
C'est un site éthique, enfin qui se revendique en tout cas comme éthique.
Qui se revendique éthique et féministe. Et du coup, c'est kink.com. Alors, ça s'écrit www.kink.com.
Alors, avant d'écouter un petit peu quelques infos, on va écouter une chanson d'Adrienne Poli qui s'appelle « Vas-y, viens ».
Vas-y, viens. Toi la fille dans la boîte de nuit, vas-y, viens, fais pas ta Barbie, j'ai besoin d'amour, viens, sors de ta boîte. Sur mon tabouret bourré, je vois des vagues qui veulent m'emporter. Sur mon tabouret où je tangue avec tes jambes, viens me ramasser. Vas-y, viens, emmène-moi sur ton dos. Vas-y, viens, remets-moi à flot. Depuis 36 bières que je t'espère, toi les bobettes ou la galère. 36 bras, ce que je prends la tasse, on pourra fio dégueulasse. Vas-y, viens, fais pas ta sirène. Vas-y, bien. Sauve les baleines. Look at me, why don't you look me when I dance. Wave your arms, why don't you take me for a dance. Look at me, why don't you look me when I dance. Wave your arms, why don't you take me, take me, take me. Sur mon tambourin bourré, prêt à exploser tout en vrac. Sur mon tabouret paumé, ouais, prends-moi comme ton sac. Vas-y, viens, assieds-toi sur ma tête. Vas-y, viens, brûle-moi avec ta cigarette. Depuis 36 ans que je m'entraîne à traîner dans les boîtes. 36 chiennes que je te mate vite avant que je me craque. Vas-y, viens, sur tes talons hauts de dame. Vas-y, viens. Montre-moi comment t'es haut de gamme. Look at me, why don't you look me when I dance. With your arms, why don't you take me for a dance. Look at me, why don't you look me when I dance. With your arms, why don't you take me, take me, take me. Toi qui sais bouger ton corps, aide-moi l'homme presque mort. J'y suis, remets-moi en vie. Toi la salope, la salomée, toi qui ne mélange jamais le cul, la danse, viens me raconter. Vas-y,
c'est passer le bon temps. Vas-y, vois, je suis tout blanc. C'est passer le temps des cerises, le prince charmant. On n'a plus le temps. Vas-y, viens, ma jolie maman.
Alors voilà, vous écoutez toujours Dégenré, l'émission féministe pour déranger, mais l'émission touche à sa fin. Alors on va passer quelques petites infos qu'on avait envie de vous transmettre. Alors là c'est le printemps, et du coup qui dit printemps dit aussi expulsion de squat. Alors là il y a plein de squats qui sont expulsables, mais il y en a aussi eu un là qui a été expulsé très 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 récemment, qui est le squat du 56, auquel nous on tenait pas mal, parce qu'il s'y est passé pas mal d'événements féministes, il y a eu des boublons mixtes, il y a eu des projections de films soit féministes, soit transpédéguines, il y a eu des soirées sur la grosseur, il y a eu vraiment plein de choses qui avaient trait au féminisme. Et alors, c'est assez bizarre, parce qu'en fait, ça a été une expulsion très étrange. En fait, les propriétaires, ou soi-disant propriétaires, c'est pas très clair, sont venus en mode gros bras et ont commencé à déménager le squat et à sortir toutes les affaires qui étaient dedans. Et du coup, nous, on n'avait pas trop le choix, on s'est laissé... on s'est fait mettre dehors par des propriétaires, et alors c'est totalement illégal. Normalement, c'est la police qui doit faire des expulsions, et sans dire qu'on apprécie particulièrement être expulsé par la police, c'est quand même un peu une sorte de magouille, quoi, parce que la police est passée, n'est pas du tout intervenue, enfin voilà. Et du coup, aussi au 56, c'est là qu'il y avait eu lieu des projections de films porno, et ça, c'était un peu une première à Grenoble de projeter des films porno.
Bah oui, il y avait le collectif tout nouveau, le collectif Post-Limas, qui avait organisé une soirée avec toute une compilation de morceaux, de films, de morceaux de courts-métrages porno. Et du coup, on voulait vous donner l'info que à partir du mois de septembre, ce collectif-là continue d'organiser de façon trimestrielle une soirée porno tous les trois mois. Et du coup, on vous donnera l'info sur Dégenré dès qu'il y aura des dates de posée pour les prochaines soirées porno.
Et ce sera sans doute aussi visible sur Indie Media Grenoble. Et souvent, même sans doute très probablement à chaque fois, ça sera des projections non mixtées meuf queen trans. C'est important de préciser.
Et du coup, alors ce collectif... et puis nous, de façon plus générale, on fait un petit peu un appel comme ça, si vous avez des trucs chouettes à nous proposer, des sites internet, des films, tout ce qui peut avoir attrait au porno, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse de Dégenré, qui est dégenré@pimienta.org, et pour nous transmettre tout ça, et ça serait fantastique.
Ça, on pourrait en parler à la radio et les transmettre à des personnes qui voudraient éventuellement faire des projections de ces films. Et alors, on va aussi vous rappeler l'existence de la bibliothèque féministe, qui est au 5 rue Henri Bergson. Et alors, c'est une bibliothèque qui se trouve dans un appartement, mais où il y a une permanence tous les jeudis du mois de 16 à 20 heures.
Tout à fait.
Et le premier jeudi du mois, c'est en mixité. Voilà, et c'est assez chouette, il y a tout un tas de bouquins, il y a des brochures.
Et très bientôt, il y aura aussi une bibliothèque de films féministes et porno-féministes. Et du coup, là encore une fois, si vous voulez partager du bon cinéma porno-féministe, ça sera avec plaisir qu'on pourra le mettre en partage avec tout ce qu'on aura déjà apporté dans cette bibliothèque.
Ou du film féministe, tout simplement, que vous avez trouvé chouette, vous pouvez nous en parler et nous les transmettre, les faire parvenir.
On n'aime pas que le porno.
Oui, on regarde aussi des films, on regarde aussi des drames et des comédies, et des films d'action.
Des films d'aventure, tout ça.
Et alors, quoi d'autre ? Bah, c'est à peu près tout pour ce soir. Alors, bah, on espère que vous avez bien aimé cette émission.
Et on vous remercie de
et
nous,
on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, ben, on va se quitter sur un petit morceau de Le Tigre qui s'appelle I'm So Excited. Ça nous semblait de circonstance pour une émission pareille. Voilà.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.